Annie Ernaux, Mémoire de fille chez Gallimard. On découvre que vous n'aviez pas tout dit, vous n'aviez pas tout écrit.
Bon, je crois qu'on n'écrit jamais tout, que c'est juste toute une vie, c'est vraiment quelque chose d'immense qui est inépuisable. Par soi-même et par les autres. Mais là, il s'agissait effectivement de deux années absolument déterminantes, cruciales dans ma vie et sur lesquelles j'avais mis un voile. Et dans mon écriture, pas dans mon journal intime où, bon, ça apparaît très souvent, ni dans mon journal d'écriture, mais je n'avais pas affronté en voulant en faire vraiment un texte, un livre, ce qui s'est passé l'été 58 avec des conséquences qui ont duré jusque 1960, c'est-à-dire 2 ans. C'est vraiment 2 ans bien enclose, voilà, de ma vie.
Mais alors pourquoi ? Parce que vous avez raconté d'autres épisodes de votre vie que l'on peut juger peut-être aussi importants et peut-être aussi difficiles à coucher sur le papier. Pourquoi toujours ce texte manquant, ce trou inqualifiable, comme vous le dites vous-même ?
Parce que plus que pour d'autres moments de ma vie, il y avait une intrication extrême entre différentes choses. D'abord, le sexe, hein, il faut le dire, c'est la première expérience sexuelle violente, et également l'entrée dans un monde différent, vraiment une coupure avec ma famille, avec mon monde à Yvetot, en Normandie, dans cette partie de Normandie plutôt, et un contact avec des autres qui sont en fait donc vraiment des inconnus, des autres de ma génération, de mon âge, même si je suis un peu plus jeune, et ce que justement ça produit de se retrouver dans un groupe avec la loi du groupe qu'on ignore complètement. Voilà. Et ensuite, il y avait tout ce qui suit, et également, je veux dire, le passage, ça c'est intérieur, le passage entre une forme de bonheur, d'amour fou, de fierté même, et à la honte qui va suivre. Voilà. Donc tout ça, il est très compliqué pour trouver les mots. Parce que c'est rien, le souvenir. Le souvenir, je peux en coucher des pages, je l'ai fait, mais ça n'est pas la vérité. Écrire, c'est rechercher ce qu'il y avait vraiment, qu'il faudrait extraire de vérité de tout ça.
Et puis alors, si vous pointez très bien justement cet écart aujourd'hui entre cette jeune fille qui est là, qui est toujours en vous, forcément, puisque d'une certaine manière, c'était vous en 1958, et qui en même temps aujourd'hui est si lointaine et même une étrangère.
Oui, j'emploie ce terme. En fait, pour moi, cette fille de 18 ans que je regarde sur une photo d'identité collée sur le dossier du bac, voilà. Cette fille, c'est effectivement, je ne peux pas dire que c'est pas moi, puisque j'ai sa mémoire. En 1961, je sais, je peux dire en la regardant de quoi elle se souvient, mais. En même temps, c'est une étrangère, puisque tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait et n'existe pas là, quand je la regarde. C'est à venir. Donc, il est évident qu'il y a un abîme entre les deux, et c'est d'écrire avec cet abîme. C'est ça la difficulté. Et donc, j'emploie effectivement le « elle » pour parler d'elle, Annie Duchesne. C'est mon nom de jeune fille, donc c'est important, c'est le patronyme, et moi maintenant, voilà, Annie Ernaux.
Mais en même temps, tout ce que vous avez fait par la suite, ce que vous êtes devenu, ne se serait jamais réalisé s'il n'y avait pas eu cette jeune fille et ce qu'elle a vécu cet été-là. On peut dire, est-ce que c'est le moment fondateur, non seulement de la femme que vous êtes aujourd'hui, mais même de votre œuvre?
Je pense que ces 2 années m'ont conduite, je n'en pourrais pas, je veux dire, elles m'ont conduite effectivement au désir d'écrire et aux premiers essais, puisque je commence en 1960 avec la pensée que j'écrirai, que c'est vraiment un désir, c'est vraiment ça. Et quand j'entre à la fac de lettres au mois d'octobre, c'est avec cette pensée-là en fond, vraiment. Donc, on peut penser que, c'est effectivement, je n'aurais pas été celle que je deviendrais. Mais je crois qu'une vie se construit tout de même au fur et à mesure. Il n'y a rien d'écrit à l'avance comme ça, un destin qui se déroule. Non, non, vraiment pas.
Je voudrais qu'on revienne sur cette jeune fille donc de l'époque. Elle a toujours été tenue par sa mère à l'écart des garçons comme du diable. Elle en rêve sans arrêt depuis ses 13 ans. Et là vient le moment justement de la découverte des garçons, de la découverte de l'amour. Vous dites d'elle, d'ailleurs, de cette jeune femme, que c'est une pouliche.
Oui, c'est qui sort de l'enclos, c'est ça. Elle était tenue et c'est réellement ainsi que je la saisis en l'imaginant juste avant d'entrer dans ce lieu, la colonie, hein, la colonie de S. Et c'est vraiment, elle a ce désir, elle échappe à sa mère, au regard de sa mère, elle échappe à la ville d'Ifto, elle échappe au pensionnat Saint-Michel où elle a fait toutes ses études jusqu'à la première incluse, donc la première partie de bac qui à l'époque est très importante, et elle est quelque chose de triomphant, hein, et de vraiment, elle part avec l'idée effectivement qu'elle, ben, elle a l'espérance de vivre une histoire d'amour. C'est ça, voilà.
Et là, d'un seul coup, elle va se prendre en pleine face, en pleine gueule, on peut le dire,
ouais,
le mépris et le sentiment de la honte.
Oui, enfin, pas au début, hein. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est que au début, il y a cette fameuse nuit
avec H,
à laquelle le moniteur chef, elle ne s'attendait absolument pas, elle n'imaginait pas. Elle, c'est au-delà. C'est au-delà de l'imaginaire et qui est si violente dans à la fois dans les psychologiquement et physiquement et qui en fait débouche sur un amour fou pour cet homme qui la rejette et en même temps il y aura le mépris elle sera la risée des autres. Il n'y a pas de honte. Elle voit, sinon elle enregistre, mais elle est toujours au-dessus de ça. Elle s'en fiche, pour dire les mots très brutalement. Elle s'en fiche complètement parce qu'elle est mue par ce désir d'avoir une deuxième nuit avec cet homme. Et voilà. Et c'est seulement plus tard, quand elle sera dans sa classe de philo.
Avec la lecture de Simone de Beauvoir.
Il y aura cette lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dont elle ignorait tout. Elle n'avait jamais rien lu. Elle ne savait même pas que c'était la femme de Sartre. Hein. Et donc, enfin, la compagne de Sartre. Et ça sera évidemment j'allais dire, comme si d'un seul coup, elle devait se redresser. Et elle devait à la fois se redresser et considérer qu'effectivement, Elle a honte, elle tombe alors à ce moment-là dans la honte et de jamais, d'une certaine manière, de se refuser aussi, hein, c'est très important, de se refuser aux garçons complètement et pendant, effectivement, pendant ces deux années-là.
Et vous dites qu'avoir les clés pour comprendre la honte ne donne pas pouvoir de l'effacer.
Et oui, ça n'est pas possible, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu une fois, vous pouvez avoir toujours, je veux dire, la lucidité de considérer que vous aviez tort d'avoir honte, qu'il n'y avait pas à avoir honte. Tout cela, ce qu'on a vécu, est indélébile d'une certaine façon. Et même si aujourd'hui, c'est-à-dire, c'était tout ça se passe donc en 58, 10 ans avant 68, c'est très important.
On y reviendra.
Oui, mais si même aujourd'hui, donc il n'y a rien finalement qui soit aussi, je veux dire, énorme rien ne peut faire que ce qui a été vécu en 58 demeure.
Est-ce que ça veut dire que la honte qu'elle a éprouvée à ce moment-là, Annie Ernaux, aujourd'hui, la porte toujours en elle?
En écrivant, c'est une façon de ne plus la porter, c'est évident. Deuxièmement, il y a longtemps que je ne la porte plus non plus. Mais c'est comme une matière qui au fond, a nourri ce texte, qui a fait que j'ai voulu l'écrire depuis... depuis très longtemps, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je veux écrire ce texte. Je ne le faisais pas tant que je n'avais pas trouvé la forme, comment l'écrire. Et c'était vraiment une grande question. Mais beaucoup de mes livres ont demandé un effort de conception, beaucoup d'années avant qu'ils viennent au jour, que ce soit, j'en vais en citer deux seulement, mais la place et les années ont mis l'un et l'autre beaucoup de temps à émerger.
Et donc cette forme, c'est cette bonne distance que vous avez trouvée enfin entre donc l'auteur aujourd'hui, Annie Ernaux, et cette Annie Duchesne.
Oui, je crois que ce qui a vraiment entraîné le texte, eh bien, j'ai mis longtemps à l'accepter, c'était de me dissocier en Annie Duchesne et ce que je suis maintenant. Voilà. Je ne vais pas m'employer mon nom Annie Ernaux, mais c'est le jeu, quoi. Entre le jeu et elle, cette fille, comme je l'appelle souvent dans le texte, cette fille de 58, voilà. Ça entraînait vraiment le texte.
Il y a dans le livre très vite aussi un côté enquête, car vous allez évidemment, votre journal a disparu, il a été détruit par votre mère, ceux qui sont familiers de votre œuvre le savent, et vous allez chercher donc dans vos propres souvenirs, et vous allez aussi mener une enquête jusqu'à aller rechercher sur Google, essayer de retrouver ce fameux H. Quelle est là vraiment, et même aujourd'hui après l'écriture de ce livre, comment expliquez-vous cette pulsion, ce besoin que vous avez eu de le retrouver aujourd'hui?
Ah, mais je pense que c'était pour moi important de savoir qu'il était vivant d'une certaine manière. J'ai besoin quelque part de travailler sur du vivant, c'est-à-dire une sorte d'enjeu. C'est une sorte d'enjeu de mise en danger, mais qui est purement imaginaire, puisque je n'ai rien fait pour que, et je m'en voudrais que cet homme fût reconnu. Je n'exerce pas du tout une vengeance. Hein. On n'en est pas, c'est pas dans ça. Il y a aucune vengeance et aucune vengeance sans un exposé des faits. Voilà, c'est ça. Tu cherchais les faits. Mais ce besoin est aussi peut-être. Il y a quelque chose. C'est de mesurer aussi quelque chose qui est l'abîme du temps. C'est de voir que, en fait, c'est vraiment plongé dans quelque chose qui est au fond la profondeur des vies, la profondeur du temps, et de mesurer, de dire que quelque chose étrange, que de le revoir, mais avec, je veux dire, je sais pas. 80 ans sans doute maintenant, oui, c'est ça à peu près.
Vous écrivez, donc en parlant de H, que vous avez retrouvé, identifié sur Google, « Je ne l'envie pas, c'est moi qui écris ». Est-ce que vous n'exprimez pas aujourd'hui une forme de mépris dont la jeune Annie Duchesne a été la victime à l'époque?
Non, ce que je ne l'envie pas, d'avoir très certainement complètement oublié, ça c'est sûr. Je ne l'envie pas, c'est moi qui me souviens. Et c'est la mémoire, et je prends la mémoire comme un moyen de connaissance, comme quelque chose qui empêche que les choses sombrent dans le néant, parce que c'est le néant nous guette tous, hein, et que de tout cela, il ne sera plus jamais question, je veux dire, voilà. Mais la mémoire, c'est vrai, une force. C'est une force, c'est un moyen de connaître, de percer et de faire exister les choses. Donc, c'est sûr que je prends ça comme une. Effectivement, je ne peux pas envier l'oubli. Je n'envie pas l'oubli.
On se demande ce que Annie Ernaux peut écrire après Mémoire de fille. On se dit que voilà, ça y est, peut-être la boucle est bouclée.
Non. Non, j'ai un livre en cours. Enfin, il y a un livre qui est dans le projet et tout à fait clair, évident. Maintenant, reste la réalisation. Voilà. Voilà. Mais je ne vous en dirai pas plus.
Et d'ailleurs, vous le dites à un moment donné dans Mémoire de fille, chaque instant, son projet d'écriture ressemble au dernier.
Oui, c'est vrai. Si j'ai pas de... Je me dis que je serais incapable, si j'arrête d'écrire après ce livre-là, comme je me dis, bon, j'en ai après le livre que je vais écrire, je n'ai pas d'autres projets. voilà, bon, et je ne suis pas sûre que je saurais profiter simplement de la vie. Je ne crois pas. Il faudra toujours que j'écrive un petit peu.
Encore des livres en perspective et des lectures pour nous. On termine sur cette bonne nouvelle. Merci Annie Ernaux.
Merci à vous.